Toucher Terre, Émilie Glory, sur Radio Grand Ciel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toucher Terre, la Terre qui vous semble sans doute tourner encore un peu moins rond depuis le mois dernier. Le printemps est là, pourtant, le réveil progressif s'accélère à mesure que les jours rallongent. Un réveil couvé dans les profondeurs qui, s'il demeure caché, n'en est pas moins essentiel, n'en est pas moins puissant. C'est dans les entrailles de cette terre que nous trouverons aujourd'hui matière à merveille. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait dans ses « Pensées pour moi-même » « Fouille en dedans, c'est en dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours ». Nous fouillerons aujourd'hui en compagnie du Conservatoire d'espaces naturels à la recherche des discrets princes charmants de l'étang de la Bennette. Nous rêverons également d'arpenter les flancs des volcans en éruption et d'assister à la plus phénoménale naissance qui soit en compagnie de l'agence de voyage Aventure et Volcan et grâce, vous le verrez, au club radio du lycée Rotrou de Dreux. Et pour commencer, cette terre que nous foulons chaque jour pour le meilleur et pour le pire, apprenons à la découvrir avec Eure-et-Loir Nature. Joël Auboin, président de l'association, vient nous parler aujourd'hui du monde du dessous, celui qui nous fait vivre. Bonjour Joël Auboin.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre en studio. Alors nous n'allons pas évoquer aujourd'hui votre statut de président de Eure-et-Loir Nature, mais nous aurons sans aucun doute l'occasion de le faire dans les mois à venir, et d'autant plus que l'association fête cette année ses 30 ans. Alors aujourd'hui, vous avez plutôt enfilé votre casquette de naturaliste passionné, et grâce à vous, nous allons plus que jamais toucher terre dans cette émission. Vous venez en effet nous parler du sol. Le sol, c'est inconnu, devrais-je dire, parce que c'est un écosystème qui est largement méconnu, voire même parfois ignoré. Alors pour quelle raison ? Parce qu'on ne le voit pas tout simplement ?
Ben, je crois que oui, c'est un peu ça, le sol, on marche dessus.
Voilà.
Et on ne s'en rend pas compte, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sols qui sont imperméabilisés. Et c'est là-dessus qu'on marche le plus. Donc, on ne se rend pas compte de l'importance du sol et on le redécouvre via l'agriculture, l'agronomie et via même le dérèglement climatique, de l'importance du sol pour lutter contre le réchauffement climatique.
Ça fait partie effectivement des problématiques et on y reviendra. Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de recherches scientifiques sur le sol ? Est-ce que les connaissances scientifiques sont peut-être aussi un peu partielles ? C'est finalement un monde un peu du dessous ?
Je pense qu'il n'y avait pas d'études actuellement. Effectivement, il y a pas mal de recherches. Il y a la connaissance est quand même bien affinée, notamment effectivement toujours via l'agriculture, l'agronomie, puisque la connaissance des sols permet de faire évoluer l'agriculture, notamment.
Alors, Joël, qu'appelle-t-on finalement le sol ? C'est quoi ?
Alors, le sol, c'est donc ce que je disais, tout sur ce dont on marche, mais c'est à la fois des roches, du sable, de l'argile, des terres, des matières organiques. On oublie un petit peu, puisque le sol, c'est aussi de la biodiversité. Ce n'est pas que de la terre, c'est aussi toutes les espèces qui vivent dans la terre. Et ce qu'on oublie, c'est que 25% des espèces vivent dans le sol.
25% ?
25% on estime, donc ça va des champignons, des bactéries, jusqu'aux plus gros, les plus gros étant les taupes, les souris, etc., qui vivent dans le sol, on l'oublie un peu, et les vers de terre qui sont connus. Mais
j'allais vous dire, voilà, il y a tout de même quelques visages familiers, si
oui,
j'ose dire, et notamment les vers de terre.
Voilà, mais on ne les voit pas beaucoup, il faut jardiner pour les voir. Mais pourtant, c'est sans vers de terre, pas de sol, vivant, donc pas d'agriculture.
J'allais vous dire, les vers de terre, on les connaît très peu finalement. Parfois, on joue avec quand on est petit, ou en tout cas, on s'amuse à les déterrer. Mais alors, quel est leur rôle au sein du sol ?
Voilà. Alors effectivement, des vers de terre, déjà, il y en a au moins 3 espèces en France. Et leur rôle, c'est effectivement de, selon la distance où ils sont, puisqu'il y a certains vivent au-dessus, certains vivent à 10 cm dans le sol.
C'est ça, il y a plusieurs étages.
Ils ont chacun leur rôle. Mm-hmm. Et notamment, en descendant dans le sol, ils font de l'aération. Mm-hmm. Ils permettent au sol de vivre, à la terre de vivre et aussi à l'eau de circuler. Et on l'oublie, puisque le sol aussi, l'eau, c'est important. La manière dont l'eau va s'écouler dans le sol, permettre de descendre, ou si elle reste au-dessus, c'est des risques d'inondation. Et voilà, donc le ver de terre est un des éléments essentiels du sol.
Alors, quelles autres espèces va-t-on retrouver, disons, dans les plus emblématiques qui peuplent le sol ?
Alors, une des plus emblématiques, c'est la moins connue, certainement, c'est les champignons.
Oui.
Les champignons, on avait en gros, il y a 3,5 tonnes de champignons par hectare à peu près, dans un sol de bonne qualité. Hein.
Voilà.
Donc c'est parce que c'est microscopique. Nous, on voit que ce qui ressort, mais du sol, quand on voit nos champignons, c'est que la sortie du mycélium. Voilà. Mais en la profondeur, on sait que des champignons aide à vivre les arbres. On l'oublie, puisqu'en fin de compte, on parle du sol, mais il y a des arbres, il y a des plantes, et c'est ce qu'il y a dans le sol qui fait vivre ce qu'il y a au-dessus.
Alors, j'allais vous poser cette question, parce que c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, on parle beaucoup, ou en tout cas davantage, de ces symbioses qui sont cachées, qu'on ne voit pas, mais qui sont essentielles, et vous avez évoqué les mycorhizes. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ces interconnexions ?
Alors, oui, entre les arbres et les champignons, effectivement, chacun apporte à l'autre ce qu'il a besoin. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'arbre va amener de la chaleur, ce qui va récupérer du sucre, etc. Et en contrepartie, le champignon va lui apporter ce qui manque à l'arbre, par exemple de l'eau pour les racines. Donc c'est effectivement, l'un ne peut pas vivre sans l'autre quelque part. Mmh. Une région où il n'y aurait plus d'arbres, les champignons ne pourraient pas vivre parce qu'il leur manquerait des éléments essentiels à leur vie et inversement. Sans champignons dans le sol, sans d'autres espèces dans le sol, les arbres ne vivraient pas. L'oubli, mais c'est les racines qui font vivre l'arbre. Ouais. Il y a le soleil aussi à travers l'apport sur les feuilles, mais... toute le sucre, etc.
La nourriture,
La nourriture provient aussi du sol.
Alors, il y a aussi dans le sol, certains n'aiment pas toujours ça, mais il y a aussi des insectes.
Ah, énormément, énormément. Et alors, il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Et puis, il y a ceux qu'on n'aime pas, ou qu'on ne connaît pas bien.
Ils sont assez mal aimés, les insectes.
Voilà. Les insectes sont très méconnus, mais très importants. Il est estimé entre 50 et 100 espèces d'insectes dans le sol. Voilà.
Tout de même.
Et puis on a des...
Alors qui ont toutes les tailles aussi, Joël, hein ?
Alors, dans le sol, on va retrouver des microfaunes qui font moins d'un millimètre de diamètre. Hein, donc genre les nématodes ou les tardigrades. Des petites bestioles, quand on les voit en photo, sont très jolies. Elles ressemblent à des ours, mais qu'on ne voit pas l'œil nu, qu'on ne verra jamais. Ouais. Il faut sortir le microscope. On va avoir effectivement des collemboles qui sont un petit peu plus gros.
Alors, je fais une petite parenthèse, mais j'ai découvert le visage des collemboles grâce à notre ami Denis Kite, qui est donc photographe et qui les prend en photo. Donc, j'invite nos auditeurs à voir sa page Facebook pour regarder les fameux collemboles. Voilà, c'est fascinant.
Voilà. Et tardigrades aussi. C'est vraiment des petites bestioles en photo, c'est joli.
Je vous ai interrompu, Joël.
Oui,
mais donc,
donc après, effectivement, on va passer à une macrofaune qui fait entre 2 mm et 2 cm de diamètre. On retrouve bien entendu les vers de terre, mais on retrouve des fourmis, on va retrouver des araignées et d'autres insectes. Voilà. Mais quand on le dit, on connaît actuellement une centaine d'espèces, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas encore. Hein. Quand on parlait tout à l'heure de la connaissance, on s'aperçoit que voilà, en termes d'insectes dans le sol, même pas que dans le sol d'ailleurs, mais la connaissance sur certaines espèces est très faible. Voilà, donc ça se trouve, on en connaît une centaine et il y en a peut-être le double ou le triple qu'on ne connaît pas. Et donc, on ne connaît pas le rôle non plus, de leur rôle important ou pas dans la Terre.
Très bien. Et ils ont tout de même un rôle dans la décomposition de la matière ?
Voilà, c'est un petit peu ça le rôle. Hein. Ces espèces vont, toutes les feuilles, tout ce qui va, les matières organiques qui vont être dans le sol vont se détruire. C'est leur rôle, vont effectivement, les mangeant, les rejetant, vont faire de l'humus hein, qui permettent effectivement d'enrichir la terre. Et donc... Ce travail n'est pas fait, il n'y a pas d'agriculture.
Voilà, j'allais dire accessoirement de nous nourrir. Hein.
Tout à fait. Alors, on le remplace parfois par des engrais chimiques, mais on en revient petit peu.
Justement, Joël, on parle beaucoup de risques d'appauvrissement du sol en France et partout dans le reste du monde. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça veut dire quoi, l'appauvrissement du sol ?
Alors, il y a deux choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que... La partie la plus importante du sol, c'est la couche arable. Donc, ce qui est au-dessus. Et ça fait entre 20 et 30 cm. C'est vraiment ce qui nous aide à faire de la culture.
C'est là où on fait pousser les choses.
C'est là où on fait pousser les choses. Et c'est cette partie qui est la plus fragile en même temps. Donc, soit on va avoir les dégradations des sols, ça peut être l'artificialisation, donc on supprime carrément le sol.
On construit.
Et ça peut être le plus grave aussi, c'est l'érosion.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'érosion ?
L'érosion, c'est justement cette partie du sol qui disparaît. Soit parce que des pluies importantes, et on le constate un peu partout, vont emmener le sol, emmener la terre avec eux. Voilà. Soit parce qu'on nous-mêmes, on détériore cette parce qu'on l'assèche, parce qu'on l'utilise mal. C'est effectivement le risque. Certains pays, effectivement, avec la chaleur, fait qu'on ne peut plus cultiver.
Alors justement, la chaleur, évidemment, on ne peut pas ne pas parler du réchauffement climatique. Ça, c'est une menace de plus pour le sol ?
Bah, tout à fait, oui. Alors, le sol présente des avantages, puisqu'il, lui, il peut récupérer le CO2. Ce qu'on disait, quand les feuilles tombent dans dans le sol et qu'elles sont récupérées, c'est du CO2 qui est accumulé dans le sol. Le sol, c'est des prairies aussi. On parlait des terres cultivables, mais c'est des prairies, c'est des forêts. On oublie toujours que c'est le sol, c'est les prairies. Et toutes ces zones-là sont des zones très importantes pour accumuler du CO2. Et le réchauffement, effectivement, va affaiblir...
cette capacité.
Voilà, ces capacités... puis la disparition, moins on a de prairies, moins on a de forêts. On parle toujours des forêts amazoniennes, mais il y en a beaucoup d'autres. Et les prairies, c'est chez nous. Les zones humides, il y a du sol aussi à côté.
Très particulier en plus.
Oui, oui. Ben voilà. Et donc on découvre aussi, on apprend en découvrant le sol, l'importance du sol. On parlait souvent des forêts, mais c'est le sol qui agit pour récupérer le CO2.
Alors, on ne va pas créer de polémique dans ce studio, mais il faut quand même qu'on parle un petit peu de l'agriculture, vous l'avez évoqué. On accuse souvent les agriculteurs de détruire le sol. Alors, souvent aussi, ils s'en défendent avec vigueur en disant que ils aiment le sol, c'est là où ils font pousser leurs céréales ou autres. Vous disiez tout à l'heure, il y a du progrès qui est fait quand même par rapport à ce respect du sol.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y avait des pratiques, notamment les labours, qui sont très négatifs pour le sol, parce que là, justement, c'est la terre arable qui est retournée. On retournait aussi toutes les espèces vivantes dedans. Donc, on l'affaiblissait, le sol, quelque part. Et aujourd'hui, de plus en plus, les agriculteurs ne labourent plus. Ils laissent effectivement les pailles sur le sol, qui permet effectivement de recomposer le sol, de faire de l'humus. Et oui, je crois qu'ils ont conscience aujourd'hui. Bah, c'est peut-être la connaissance. Hein, et l'agriculture biologique sont les premiers à avoir fait ça. Mais je crois que de plus en plus, l'agriculture a compris la nécessité de protéger le sol. Et il y a quand même des baisses de rendement parce que même la chimie ne remplace pas la capacité du sol à faire les choses. Et ils ont bien compris que si en protégeant, en ayant moins de CO2 dans la nature, sur la terre, ce serait mieux pour eux. Et d'avoir des baisses de rendement, c'est aussi négatif. Donc ils ont bien compris que leur intérêt Et la connaissance, je pense que c'est ça. Hein. La connaissance scientifique fait évoluer les pratiques.
Et le dialogue, parce que je me souviens, au tout début de Toucher Terre, on avait fait un reportage sur l'installation de nichoirs à Chouette et Frais, et c'était chez un agriculteur de tout au nord du département qui nous avait expliqué qu'il avait arrêté de labourer. Alors c'était tout de même un problème, parce que c'était en partie pour se débarrasser des mulots, et que grâce à ces nichoirs à Chouette et Frais, ben voilà, il avait trouvé des alliés pour lutter contre
tout
ça.
Fait. Voilà. Alors, sachant que ce n'est pas les labours qui allaient protéger, mais les produits, certains voilà. produits, effectivement. Et là aussi, oui, la connaissance fait que le fait de protéger certaines espèces de rapaces, nous, on travaille notamment sur les busards Saint-Martin, cendré, qu'on essaie de protéger, avec les agriculteurs d'ailleurs, puisque sans eux, on ne pourrait pas le faire. Et ils ont bien compris que, effectivement, ces espèces vont manger beaucoup de mulots et autres espèces
qui vivent
sont
donc
néfastes à l'agriculture. Ah oui. Donc, on retombe sur nos pattes.
Alors, Eure-et-Loire Nature, c'est aussi et surtout une association qui accompagne pour des pratiques plus vertueuses. Là, je pense aux simples citoyens. Comment nos auditeurs peuvent s'assurer de la bonne santé de leur sol, notamment dans leur jardin? Est-ce que le mieux, c'est de surtout ne pas y toucher, ne rien faire, laisser faire la nature?
Oui, alors pour faire un jardin, faut quand même il y a quelques pratiques. Voilà. Effectivement, le bêchage est moins recommandé aujourd'hui. Alors, je suis pas un spécialiste du jardinage, mais effectivement, on va sur ces mêmes pratiques, puisque ce qui est valable pour les agriculteurs est valable pour les jardiniers.
Voilà.
Donc déjà plus de produits chimiques, mais normalement ils ont plus le droit d'en utiliser. Mais certains l'ont peut-être encore, mais ils ne doivent pas les utiliser. Mais effectivement, on a d'autres systèmes, des paillages pour entretenir le sol, l'enrichir. Et puis effectivement le traiter, voilà, respecter les vers de terre, hein. Me souvenir voilà. qu'une génération précédente, pour eux c'était, on les tuait parce que voilà, ils abîmaient les sols. Maintenant on a compris que il y avait, le vers de terre était mal vu il y a une ou deux générations encore, parce qu'on pensait que c'était pas bien dans le sol, que ça, voilà. Et aujourd'hui on a compris qu'il fallait les protéger, que c'est eux qui apportaient de la richesse dans le sol.
Très bien. Bah écoutez, Joël, merci beaucoup pour toutes ces précisions passionnantes sur le sol. On aura sans doute l'occasion d'en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Et vous reviendrez bien sûr pour nous parler d'Eure-et-Loire Nature, surtout donc en cette année des 30 ans de l'association. Merci.
Très bien. Bah, je vous remercie.
Merci Joël Auboin pour ce moment de partage au sous-sol. Joël a écrit plusieurs articles sur ce sujet dans la revue d'Eure-et-Loire Nature, La Garzette, l'incontournable Garzette que vous pouvez consulter dans certaines médiathèques de notre département, renseignez-vous. Et mieux encore, une adhésion à Eure-et-Loire Nature vous permettra d'en devenir les heureux lecteurs. Un mot maintenant de l'agenda très fourni de l'association. Le 27 mars prochain, elle vous propose une excursion dans le Loir-et-Cher au départ de Châteaudun. De 10h à 17h, vous partirez à la découverte de deux fleurs absolument merveilleuses et malheureusement absente de notre département, la fritillière pintade et la tulipe sauvage. Pour contempler ces deux belles du printemps, inscription et renseignements obligatoires, tout comme un pique-nique et des chaussures étanches. Rendez-vous sur la page de l'émission pour retrouver toutes les informations. Marquons une pause dans Toucher Terre avant de remonter d'un étage et de quitter les couches invisibles pour le plancher des vaches. Des vaches, oui, mais aussi des tritons. Les princes charmants de la Bennette étaient les grandes vedettes de la sortie nature du 5 mars dernier, organisée par nos amis du Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire. Je vous emmène sur le terrain juste après cette respiration. A Playlist Without Borders, une playlist sans frontières, c'est le titre d'un album du célèbre violoncelliste américain Yo-Yo Ma et de son ensemble de la route de la soie, The Silk Road Ensemble, un projet enthousiasmant qui réunit depuis de nombreuses années des musiciens de tous horizons. On écoute un extrait de A Playlist for an Extreme Occasion. Thank you. Le Silk Road Ensemble de Yo-Yo Ma et plus précisément Mike Block au violoncelle, Joseph Gramley et Shane Shanahan aux percussions et Sandeep Das au tabla. C'était un morceau Playlist for an Extreme Occasion composé par Vijay Iyer. Allez, il est temps de partir à l'aventure à deux pas de chez vous. Le Conservatoire d'Espaces Naturels Centre Val-de-Loire organise, vous le savez, des sorties nature à la découverte des sites qu'il gère. L'étang de la Benette près de Senonche en fait partie et il est intéressant à plus d'un titre. Pour sa flore, bien sûr, que Michel Boin nous a fait découvrir dans Touche et Terre au cours d'une sortie botanique, mais aussi pour sa faune. Le 5 mars dernier était ainsi organisée une sortie consacrée au prince charmant de la Benette. En effet, nombreux sont les amphibiens qui profitent de cet espace naturel préservé pour leur reproduction. Les tritons notamment, qui sont d'une discrétion à toute épreuve, malgré leur couleur nuptiale chatoyante. À cette période, ils gagnent les points d'eau pour s'accoupler et pondre, l'occasion de les voir de plus près grâce à Mélodie Devligère, garde animatrice tout terrain qui bénéficiait d'une autorisation pour manipuler des espèces qui sont, je vous le rappelle, protégées. Il a fallu toute son expérience et son savoir-faire pour trouver ces petites créatures dont la délicatesse est toujours émouvante. Le groupe d'une dizaine de curieux venus les découvrir ne s'y est pas trompé et l'émerveillement était sur tous les visages, petits et grands. Partons à la Benette qui, vous allez l'entendre et le comprendre, est en ce moment à sec. Reportage donc en compagnie de Mélodie du Conservatoire d'Espaces Naturels, mais aussi notamment de Bruno Landier, agent de l'Office français de la biodiversité, déjà connu des fidèles auditeurs de Touche et Terre.
Bonjour à tous et merci d'être venus malgré la météo un peu grise. Je m'appelle Mélodie, je suis garde animatrice au Conservatoire d'Espaces Naturels Centre Val-de-Loire. Et aujourd'hui, on a aussi Bruno Landier qui est là, qui va intervenir et vous parler un petit peu de la biodiversité et de son métier à l'Office français de la biodiversité qui a été récemment créé. Je vous propose d'aller voir au bord de l'étang. Et puis, du coup, je vous présenterai le site là-bas et Bruno pourra se présenter également. Donc, comme vous pouvez le constater, on a effectivement un petit manque d'eau. Alors, c'est pas dû à une sécheresse ni rien. En fait, l'étang a été mis à sec cette année, c'est-à-dire qu'on l'a vidé cet hiver. On a réalisé une pêche pour récupérer tout le poisson. On est à une convention avec une pisciculture qui est pas très loin, qui réalise à la fois la vidange et la pêche. Et du coup, là, ça va rester complètement à sec, donc sans eau. Pendant toute une année.
Ah bon ?
Ouais.
Et pour quelle raison ?
Alors, tous les 10 ans, en fait, on réalise cette opération, on vide l'étang et on laisse à sec. L'objectif, en fait, c'est de minéraliser les vases. C'est-à-dire qu'au fond de l'étang, on a de la matière organique qui s'accumule au fur et à mesure. Et là, de la laisser à sec, cette matière organique va sécher, se dégrader et va devenir minérale, une sorte de terre. Et ça va éviter d'avoir une accumulation, en fait, de sédiments au fond de l'eau, une fois qu'il sera rempli. Ça permet aussi de lutter notamment contre les espèces exotiques envahissantes et contre certaines bactéries. Effectivement, ça lui fait une drôle de tête. On a presque 6 hectares ici en eau. L'étang n'est pas très profond et on a des berges qui sont vraiment en pente très douce, comme vous pouvez le voir. C'est des particularités qui vont être assez intéressantes ici, notamment pour la flore, mais aussi pour la faune. On a 3 espèces de plantes qui sont protégées sur le site. On a la littorelle à une fleur, le flûteau nageant et la pilulaire globuleuse qui sont vraiment protégées. Pour la littorelle à une fleur, c'est une des seules stations du département et elle est vraiment typique des berges un peu rocailleuses qui sont à sec une partie de l'année. Donc si vous voulez la voir, on peut s'approcher un petit peu. Vous avez ce petit gazon ici, là. La petite plante un peu grasse, là.
Ouais.
C'est ça. Tout ça, là, c'est des plantes protégées. Donc, elle est responsable notamment de la publication d'un arrêté préfectoral de protection du biotope sur le site de l'étang de la Benette, qui interdit au public de venir se promener sur le bord de l'étang. Donc aujourd'hui, on est en animation, vous êtes accompagnés, je vous amène ici pour voir à quoi ça ressemble. Mais évitez de le faire si vous revenez dans le coin. C'est parce que cette plante est très sensible en fait au piétinement.
Est-ce que vous faites des actions de désherbage justement pour qu'elle ait plus de place ?
Non. On ne fait pas d'action de désherbage pour qu'elle ait plus de place. Là, ça va être vraiment le sol assez particulier. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais là, sur les grèves, on a un fond en fait de silex. Donc, qui fait qu'on a pas trop de végétation qui se met directement dessus. En fait, on est sur les sables argileux à silex du Perche, donc sur un sol qui est acide, qui va rapporter aussi une condition supplémentaire pour cette flore particulière, en sachant que du coup, sur le reste du département, on est plutôt sur du calcaire.
Eh bien, on va présenter l'Office français de la biodiversité. Donc, on est avec Marine qui nous vient de la région Centre. En ce qui me concerne, moi, je suis plus ancré dans le département d'Eure-et-Loire depuis une trentaine d'années. Alors, il faut savoir qu'on est un organisme tout frais, tout récent, puisqu'on est né au 1er janvier 2020. À l'origine, si vous voulez, c'est un petit peu les anciens gardes-chasse, les anciens gardes-pêche qui ont évolué sous différentes structures, l'ONEMA, l'ONC, l'ONCFS, l'AFB, l'Agence française de la biodiversité. On s'est unis depuis le 1er janvier 2020 pour former l'Office français de la biodiversité. Alors, on est un établissement public. On est en gros 2800 agents au niveau national, que ce soit au niveau de la métropole comme en Outre-mer, parce que l'Outre-mer a la particularité d'avoir en termes de biodiversité pratiquement autant d'espèces qu'en métropole, donc c'est pour vous dire que c'est énorme. C'est pour ça qu'on a des agents qui sont vraiment répartis sur tout le territoire. Au niveau de nos structures, on a donc une direction nationale qui se trouve à Vincennes. On a des structures régionales dont Marine dépend, puis des structures départementales dont je dépends. On est en gros une douzaine d'agents déployés sur le département pour différentes missions. Des missions de police que vous connaissez probablement tous. Après, on a un volet connaissance, recherche, expertise. Donc ce volet-là, pour le département d'Eure-et-Loire, je suis un petit peu le référent au niveau de l'OFB. C'est un petit peu mon domaine, comme on dit. Exemple avec le CEN, on travaille sur différents sujets, dont les chauves-souris. Et enfin, on a un dernier volet au niveau de nos missions. Je vais laisser Marine le présenter parce que c'est un petit peu son domaine.
Alors, volet qui est apparu en fait avec la création de l'OFB il y a 2 ans. Ce service comporte la sensibilisation à l'environnement à travers, par exemple, un dispositif qui s'adresse aux écoles, les aires terrestres éducatives, qui consiste à faire travailler les enfants sur un site naturel et leur faire découvrir le site et les inciter à faire des propositions de gestion après sur ce site-là, à proximité de l'école. Donc ça, c'est un type d'action. Et puis également l'appui aux acteurs, principalement les collectivités locales, mais ça peut être sur des sollicitations de particuliers ou d'autres acteurs. Un exemple de mobilisation donc portée par l'Office français de la biodiversité.
On devient agent de l'OFB soit par concours administratif, donc il faut avoir Bac plus 2, Bac plus 3 avant de le passer, ou alors on peut par le biais de ponts aujourd'hui passer d'une administration à une autre. C'est une opportunité pour intégrer la profession après un an de formation, un an de stage qui permet d'intégrer un service.
Vous êtes venu pour parler de quelle thématique aujourd'hui, vous savez ?
Les batraciens.
Ouais, voilà, plutôt sur les amphibiens.
Ouais.
Alors en fait, l'étang de la Benette, c'est vraiment un haut lieu de reproduction des amphibiens. Alors cette année, l'étang étant à sec, on ne va pas les voir trop dans l'eau de l'étang. Par contre, on peut les observer autour parce que c'est un étang qui est très bien situé pour les amphibiens. On est en lisière ici de forêt et une forêt qui est assez humide, une forêt de feuillus. Qui va leur permettre de trouver refuge en hiver et en été pour trouver à manger ou des sites d'hivernage. Et puis un étang du coup qui est pas trop chargé en poissons, avec des pentes très douces qui vont leur permettre en fait de se reproduire. Ici, quand l'étang est plein, on a des centaines, voire des milliers de crapauds qui viennent se reproduire. Et on a également des tritons. On a 9 des espèces d'amphibiens qui ont été répertoriées sur le site. En sachant que tous les amphibiens en France sont protégés. On n'a pas le droit de les déplacer, ne serait-ce que de les capturer. Moi, j'ai une autorisation de capture hein, pour pouvoir les manipuler. Ce sont des espèces qui sont très fragiles. On n'a pas le droit de les déplacer non plus. Et normalement, on n'a pas le droit non plus de détruire leur milieu de reproduction. Là, nous, on vous en a trouvé quelques-uns à l'abri, typiquement là où ils vont se réfugier, du coup, quand ils sont en mode terrestre. Là, on en a un tout petit. Alors, celui-ci, c'est le triton palmé. Là, vous avez une femelle hein, qui a le ventre un peu gonflé. Les pattes arrière sont très claires. Donc, c'est un adulte, hein, c'est pas un bébé, avant que vous me demandiez. Attention à pas trop marcher sur les troncs d'arbres. Potentiellement, il y en a d'autres en dessous. Donc là, on voit bien qu'il est en phase terrestre. Donc c'est important d'avoir des milieux où ils peuvent se réfugier, avec une litière de feuilles, un peu de bois mort au sol. Ils aiment bien aller se réfugier en dessous. Et c'est là aussi qu'ils vont trouver leur nourriture, parce qu'ils aiment bien aussi ben, les vers de terre, les petits crustacés, les petits coléoptères, qu'on va retrouver aussi dans le bois mort, puisque c'est eux qui vont dégrader la matière organique. C'est la nourriture des tritons, des grenouilles, des crapauds, des salamandres. Donc c'est important aussi pour en avoir, pour les favoriser. Là j'ai une femelle, et alors et ici j'ai le mâle. Un peu moins gonflé au niveau des flancs, hein, un peu plus efflanqué. Ils ont tendance à être un peu plus foncés, et les pattes arrière ici sont particulièrement foncées. Hein, elles sont noires et elles sont palmées, d'où son nom de triton palmé. Très caractéristique du mâle de cette espèce. Hop, on a un petit filet ici au bout de la queue. Et ça fait comme une petite cassure, et ça fait comme un fil au bout. Voilà. Parce qu'en fait, on peut le confondre potentiellement avec une deuxième espèce qui fait à peu près la même taille. C'est le triton ponctué qu'on trouve aussi ici, qui est un peu plus rare. Et lui, par contre, il l'a pas, et le mâle a une crête aussi sur le dos. Des gros points bien ronds. Ils ont vraiment besoin du milieu aquatique, parce que grenouilles, tritons, salamandres et crapauds, en fait, pondent des œufs dans l'eau. Et le petit va se développer dans l'eau avec des branchies hein, jusqu'à la maturité, où il va se métamorphoser, perdre les branchies, gagner des poumons et sortir de l'eau. Et là, il va regagner la forêt, un boisement, une prairie pour passer l'été et l'hiver à se nourrir et à dormir.
Il a besoin des milieux humides en fait pour la période de reproduction. Mmh. On n'en a pas 36 000 espèces, hein, on en a 6 espèces en région centre, 4 dans le département d'Eure-et-Loir pour l'instant de trouver. Et là, celle-ci, comme Mélodie le disait, avec le triton ponctué, c'est la plus petite espèce qu'on trouve au niveau des tritons.
Mais tous ne sont pas palmés?
Non, tous ne sont pas palmés. Là, chez les tritons, c'est le seul qui a des pattes palmées en fait, à l'arrière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle triton palmé. Et la femelle n'a pas les pattes palmées non plus. Et du coup, alors, il ressemble un petit peu à un lézard hein, sur la physionomie. Mais il a une queue aplatie qui lui permet de se déplacer dans l'eau. Et surtout, les lézards, en fait, ce sont des reptiles et qui ont la peau recouverte d'écailles, alors que chez les amphibiens, on a une peau totalement nue. On n'a ni poils, ni écailles. C'est une particularité qui va notamment leur permettre de favoriser les échanges gazeux dans l'eau. En fait, ils sont capables de respirer par la peau, de capter l'oxygène qui est présent dans l'eau par la peau. Le problème, c'est, pour eux, c'est qu'ils sont également plus sensibles à la pollution. Alors en fait ici on est sur un étang qui est en tête de bassin versant, c'est-à-dire qu'il n'est alimenté par rien d'autre que les gouttiers, donc les fossés en fait de la forêt. On est vraiment en haut de la butte, il n'y a rien d'autre qui l'alimente.
Et... Oh, il n'y a pas de petite rivière au bout qui amène l'eau.
Non. Du coup on est sur un étang qui est un peu protégé par la forêt, puisque dans la forêt on met moins de produits... que sur les champs. Et en plus de ça, il est en tête de bassin versant, donc on a une eau qui est plutôt assez pure. Donc c'est aussi intéressant pour la biodiversité, notamment pour nos amphibiens qui sont très sensibles à la pollution. On a pas mal d'écrevisses. Donc là, le fait que ce soit à sec un an, ça va leur mettre un petit coup. Donc, ce sont des espèces, en fait, normalement, réglementairement parlant, on est obligé en fait, de les détruire. Là, théoriquement, je suis obligée en fait de tuer les individus que je trouve j'ai pas le droit de les relâcher parce que ce sont des espèces exotiques envahissantes. Ouais. Elles posent un problème pour la faune sauvage parce qu'elles vont se nourrir notamment de des alevins, des têtards. Parfois aussi sur des gros individus, ils peuvent manger le petit triton palmé là qui est pas très gros. Donc ça pose un problème pour la faune locale. Et en plus, pour s'en débarrasser, c'est une belle plaie, je vous le dis simplement, parce qu'elles sont capables de faire plus de 2 km sur la terre ferme.
Malheureusement, ouais, c'est des espèces exotiques, comme on dit, envahissantes aujourd'hui. On en a une dizaine d'espèces au niveau national. Il nous reste un site dans le département où on a encore l'écrevisse à pied blanc, l'écrevisse autochtone qu'on trouvait au niveau national un peu partout, avant les premières introductions. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une plaie et on n'a plus que de l'écrevisse, en gros, américaine, parce qu'elles nous viennent toutes plus ou moins d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Mais elles ont colonisé le département, puis même la métropole, à une vitesse grand V. Et malheureusement, les sites à pied blanc, on n'en trouve presque plus au niveau national.
Je peux vous demander, du coup, je peux poser une question?
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous faites?
Mon fils ramasse les déchets de dans la nature.
Comment tu t'appelles?
Aurel.
Alors Aurel, pourquoi?
On voit que ça pollue la nature.
C'est vous qui lui avez inculqué ces valeurs-là?
Je sais pas. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais appris à jeter les choses par terre. Alors quand on en trouve, on les ramasse. Et puis il a fait les scouts aussi peut-être, non? T'as appris ça au scout, voilà. Voilà.
Merci Aurel.
Puisque tout le monde est là, donc je ne sais pas si vous avez remarqué là l'ouvrage sur lequel vous êtes tous appuyés en béton. En fait, c'est un crapauduc, donc c'est une installation de la route spécialement pour les amphibiens, d'où le crapauduc. Donc là, et qui longe tout le virage ici, tout l'étang, pour permettre aux amphibiens de passer sous la route et éviter qu'ils se fassent écraser. Parce que ici, on parle quand même de pas mal d'individus. Au printemps, quand ils sortent de la forêt pour retourner dans l'étang, on a potentiellement des gros massacres par les voitures. Donc c'est un crapauduc qui est un peu vieux, qui est en mauvais état, qui a été créé en 2001. Donc les amphibiens viennent buter contre les plaques en béton, ils les longent et d'intervalles réguliers, il y a des tuyaux comme ça qui passent sous la route et qui leur permettent de traverser. Toujours sur le site de l'étang de la Benette, c'est la deuxième parcelle, celle qui est de l'autre côté de la route. En fait, ici, il y avait donc on a le ruisseau en fait qui est un petit peu plus loin dans le boisement, et on est sur un boisement qui est très humide, très marécageux dans le sous-bois. Donc, on va avoir des plantes assez aussi typiques. On a la prêle des bourbiers, notamment, c'est une grande prêle. Donc, ce sont des espèces qui sont assez anciennes, puisqu'on les trouvait déjà avec les dinosaures. On a des fossiles de prêle. Et là, c'en est une qui est bien vivante, qui va pousser dans une clairière un petit peu plus loin, et qui est également une espèce protégée, et qui aime beaucoup les milieux forestiers marécageux. Devant vous, vous avez un deuxième milieu humide qu'apprécient beaucoup les amphibiens, et sur lequel, là, puisque l'étang est à sec, les amphibiens vont se réfugier. C'est une mare qui a été créée par le conservatoire pour favoriser cette petite faune. Je ne sais pas si vous avez vu du coup, mais il y a des bouteilles dans l'eau.
Là, on pose la question.
Voilà, alors du coup, là, c'est pas des déchets, ce sont des pièges artisanaux qui ont été posés exprès pour pouvoir essayer d'attraper des tritons, s'il y en a. Donc on va tirer sur la ficelle et regarder si on en trouve tout à l'heure.
En fait, c'est des bouteilles de 5 litres sur lesquelles on coupe le dernier quart de la bouteille pour former un entonnoir. Et une fois positionné dans l'eau, en fait, de nuit, on laisse toujours une partie avec de l'oxygène. Les tritons curieux vont se déplacer, venir chercher l'oxygène la nuit à la surface de la mare. Et du coup, ils vont rentrer par le goulot, se trouver emprisonnés. Et le lendemain matin, quand on fait les relevés de bouteilles, ça nous permet de faire des inventaires de mare.
Alors, du coup, on a quelque chose ici, et j'ai plein de matériel derrière. Palmé, mais faudrait peut-être... c'est peut-être une ponctue. Elles sont très difficiles à distinguer, les deux espèces chez les femelles. Si vous voulez, vous pouvez regarder. Est-ce que quelqu'un d'autre veut remonter la
deuxième?
C'est quasiment c'est
un gros là. Il y en a un qui est différent, ouais. Non ah, je vois du bleu là.
C'est le même. La plupart des femelles là sont pleines, elles sont prêtes à pondre. Ce qui est assez curieux, c'est qu'elles vont pondre les œufs un par un. Elles ne vont pas faire une grappe comme on peut l'avoir chez la plupart des grenouilles. Ouais. Là, ça va être des œufs qui vont être finement déposés sur des feuilles, herbes, sur des morceaux d'algues.
Épuisette.
C'est elles qui les déposent.
Elles les déposent,
oui. Et elles les enveloppent, voire. C'est des individus qui travaillent beaucoup oui, en période de reproduction. C'est assez méticuleux.
La couleur est plus marquée avant ?
En hiver, quoi, comme à l'automne, les individus qu'on va trouver sous les branchages, par exemple, là, sous les arbres, ils n'ont pas des couleurs qui sont franches. Même les crêtes, elles sont tout juste présentes. Et c'est plus difficile à identifier, mâles, femelles, et les différentes espèces quand on n'a pas l'habitude. Mais une fois qu'elles sont dans les milieux humides, là, dans les mares, là, par contre, ils prennent des couleurs vives qui sont propres.
Là, c'est le cas.
Oui. Là, ils sont pas mal. Là,
C'est vrai qu'on est en phase aquatique.
On voit la différence de taille, l'alpestre légèrement plus gros, il fait en moyenne 2 cm de plus que le ponctué ou le palmé. Là, l'alpestre, il fait 10-12 cm. Quoi. On a le triton crêté, par exemple, il fait le double du ponctué ou du palmé. Et puis après, encore plus gros, le marbré, qui fait à peu près 2 cm de plus que le crêté. Quoi.
Est-ce que vous avez eu les gros ?
Non, on n'a pas vu. Voilà. C'est des petits carnassiers, ils vont effectivement manger des larves d'insectes qu'on va trouver dans l'eau, et notamment la larve de moustique, le ver de vase aussi, le chironome, la larve de chironome rouge qui fait un petit ver rouge en fait au fond de l'eau, les larves de libellule. On peut trouver aussi des petits crustacés ici dans l'eau, l'azelle et le gamard qui peuvent aussi être au repas des amphibiens. En forestier, ils vont manger des vers de terre, des limaces, des escargots, des coléoptères, un petit peu tout ce qui va se trouver dans la litière. Et la plupart des amphibiens sont des bons copains du jardinier parce que du coup ils vont les débarrasser des chenilles et des limaces qui viennent ravager le potager. Du coup là on voit effectivement le mâle du triton palmé que vous aviez tout à l'heure en terrestre. On voit un peu plus les couleurs quand ils sont dans l'eau. Il s'est un peu éclairci avec l'humidité. Et du coup on voit bien les pattes palmées qui sont pour le coup bien contrastées dans l'eau. Et aussi bien déployé.
Et ça, c'est quoi? C'est une femelle, hein?
Oui, et du coup, c'est ça, c'est la femelle.
Oui, c'est ça. Bon, effectivement, les pattes, elles ne sont pas du tout palmées.
Voilà.
Il faut savoir que les espèces aussi sont protégées. Bon, nous, dans le cadre police, ça nous est déjà arrivé sur le bon coin de trouver des individus qui étaient mis en vente. Donc, du coup, quand c'est comme ça, on remonte un petit peu la filière pour savoir où ça va, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi. Et du coup, la plupart des gens sont verbalisés. Il faut savoir que le commerce, le transport, la naturalisation, c'est des points qui sont interdits par la législation française. Dans le cadre de nos missions de police, c'est pas rare d'intervenir, comme pour le trafic d'espèces.
Le petit livret de la salamandre sur les amphibiens.
Et oui, le petit guide du magazine La Salamandre offert à tous les participants et qui leur permettra de distinguer les différentes espèces d'amphibiens présentes sur notre territoire. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour remercier chaleureusement Mélodie de Vligère pour sa disponibilité, Bruno Landier et Marine Colombet de l'Office français de la biodiversité pour leur participation généreuse, mais aussi Sabine, bénévole venue prêter main forte à Mélodie, Aurel et sa maman, qu'on a pu entendre dans le reportage, et puis Simon Martin de Radio Grand Ciel, qui m'a grandement aidé dans le montage et la réalisation de ce reportage. Vous trouverez sur la page de l'émission des images des tritons que nous avons rencontrés lors de cette sortie passionnante. Elle était organisée dans le cadre de l'opération nationale Fréquence Grenouille, et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir expérimenter vous-même une sortie amphibien. Mélodie vous attend le 19 mars prochain à 14h pour découvrir la mare de Bue. C'est au nord de notre département. Il faut vous inscrire au 06 22 81 27 84 avant le 18 mars et je ne saurais trop vous conseiller de tenter cette expérience. Et puis le 27 mars à 10h, promenez-vous avec le conservatoire toujours sur le sentier forestier qui contourne l'étang de la Benette, l'occasion de découvrir toute une nature qu'on nous promet fourmillante. Inscription avant le 25 mars au même numéro, je vous le rappelle, 06 22 81 27 84. Vous trouverez sur la page de l'émission un lien vers l'agenda du conservatoire car c'est loin d'être les seules sorties proposées. Merci à nos deux partenaires associatifs, Eure-et-Loire Nature et le Conservatoire d'Espaces Naturels Centre-Val de Loire. On fait une deuxième pause avant d'en savoir plus sur des sorties nature d'un genre un peu plus extrême. Nous retrouverons Mathieu Morelière de l'agence Aventure et Volcan, interviewé par deux élèves du club radio du lycée Rotrou de Dreux. Je vous propose tout de suite de vous laisser surprendre par cet enregistrement de l'audio-naturaliste Fernand de Roussen qui va vous plonger dans l'ambiance. De retour dans Toucher Terre sur Radio Grand Ciel, alors avez-vous deviné quelle est cette bête furieuse immortalisée par Fernand de Roussen ? Eh bien, il s'agit de l'Etna, le volcan sicilien. Les volcans, objets de fascination pour beaucoup et certains parmi les plus passionnés, décident même de sauter le pas et d'aller arpenter ces montagnes furieuses. Vous accompagner sur les volcans en éruption, c'est la raison d'être de l'agence de voyage Aventure et Volcans créée par la famille de Saint-Cyr. Vous vous souvenez peut-être du patriarche Guy de Saint-Cyr, auquel la chaîne de télévision Arte avait consacré une série de 10 documentaires entre 2007 et 2012, série qui s'appelait « Sur les volcans du monde » et que l'on peut visionner sur Internet. Le lien sera sur la page de l'émission. Alors, pour nous parler d'aventures et volcans, un guide, Mathieu Morelière, mordu bien sûr de volcans, et qui répond non pas à mes questions, mais à celles de Maëva et Lana, deux élèves du lycée Rotrou de Dreux qui participent au club radio que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine. Ce sont elles qui ont choisi ce sujet, qui ont contacté Mathieu pour en savoir plus sur ce tourisme tout feu, tout flamme.
Bonjour.
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 Pouvez-vous nous présenter ce qu'est Aventure et Volcan et d'où est venu le concept ?
Oui, c'est avec grand plaisir. Donc, Aventure et Volcan, c'est à la base une histoire de famille, de passionnés, la famille de Saint-Cyr, le père et la mère, Guy et Monique, qui étaient des aventuriers au long cours dans les années 60-70 et qui se sont pris de passion pour les volcans en découvrant le volcan de Stromboli en Italie. Et qui ont décidé, avant de décider d'en faire un métier au début des années 80, en emmenant avec eux des voyageurs intrépides. Donc, ils se limitaient plus à eux seuls, mais emmenaient quelques personnes. Ça a commencé par l'Italie. Et le concept est né, en fait, autour de ces premiers voyages. Et la marque Aventure et Volcan, l'agence, a été créée en 1983, donc par Guy Monique et Tanguy, le fils de Guy et Monique, qui lui-même est tombé dans le chaudron de la passion des volcans. Et donc voilà, donc c'est une agence qui depuis a beaucoup grandi. Au début, elle ne proposait que les volcans du sud de l'Italie, et maintenant on se balade un peu partout dans le monde sur tous les volcans en activité. Et l'agence aura donc 40 ans l'année prochaine. Donc ça commence à faire déjà une belle vie entrepreneuriale au service des passionnés de volcans.
Et qu'est-ce qui vous passionne dans les volcans et depuis quand ?
Alors, ce qui nous passionne, c'est le phénomène à plusieurs... c'est multisensoriel, c'est à la fois un phénomène qui est très spectaculaire visuellement. Il n'y a pas beaucoup d'autres phénomènes naturels sur Terre qui ont une telle intensité visuelle avec des couleurs très différentes, de jour comme de nuit, et qui sont évidemment particulièrement impressionnants. Mais il y a aussi tout l'aspect sonore qui va avec, qui est très important, et l'aspect olfactif, donc les odeurs. Donc c'est vraiment tous les sens qui sont mis en action à chaque fois qu'on a la chance de découvrir un volcan. Donc très souvent, quand on commence à s'y intéresser un petit peu, on tombe un peu dans la drogue de vouloir y retourner en permanence, tellement c'est beau et changeant à chaque nouvelle éruption. Et je pense qu'on a tous ici un peu ce virus de l'observation du volcanisme. Voilà ce qui nous passionne. Donc en plus d'être passionné par le fait de nous les voir, évidemment, on aspire à transmettre cette passion à nos voyageurs et à essayer de les amener dans cette grande famille des passionnés de volcans. Il y en a beaucoup qui sont devenus des clients très très fidèles, qui sont partis des dizaines de fois avec nous depuis très longtemps et qui repartent quasiment chaque année.
D'accord. Quel type de volcan faites-vous visiter ?
Alors tous, quand les gens tapent à notre porte, c'est principalement pour voir des volcans en éruption. Donc c'est pas la majorité. Sur l'ensemble des volcans du monde, il y en a que quelques pourcents qui sont en activité éruptive. Les autres dorment ou sont éteints. Mais donc on vient d'abord chez nous pour voir des volcans en éruption. Et ensuite, à côté de ceci, on va évidemment profiter du fait d'être dans tel ou tel pays pour voir les autres volcans, donc pas se limiter uniquement à ceux qui sont en activité, mais aller voir tous les autres reliefs volcaniques qui sont souvent tout aussi majestueux, même s'ils sont endormis, et aussi voir tous les petits phénomènes annexes, ce qu'on appelle les phénomènes géothermiques, donc ça peut être des sources chaudes, des jets de vapeur, des geysers, des mares de boue brûlantes, ou parfois des cristallisations de soufre. On a comme ça tout un tas de phénomènes qui sont visuellement exceptionnels et complètement hallucinants en termes de couleurs, qui sont aussi des phénomènes volcaniques et qui vont donc enrichir la palette de ce qu'on va voir. Mais tout d'abord, vraiment, notre spécialisation et la raison pour laquelle on est reconnu dans le monde du voyage, c'est vraiment pour aller sur les volcans qui sont en éruption. Donc on voit quasiment, je ne vais pas dire tous les volcans, mais tous sont accessibles, en tout cas on essaie d'aller les voir.
Et est-ce que c'est plutôt dangereux ou pas ?
Alors oui, mais on fait en sorte de mettre en place toutes les mesures de sécurité pour éviter qu'il y ait des accidents. Jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait presque 40 ans qu'on fait ça, on a fort heureusement jamais déploré de victimes sur les volcans. On a déjà eu des gens qui ont été blessés, mais c'est souvent des blessures bénignes. Souvent, c'est même pas lié au volcan lui-même, ça peut être simplement une cheville tordue ou malheureusement un bras cassé quand on a comme un accident en montagne. Mais on met vraiment en place toutes les mesures de sécurité. La toute première, c'est déjà que nous, on aille sur place avant d'amener des clients pour voir un peu le terrain, le reconnaître, savoir comment le volcan se comporte. Et ensuite, seulement quand on connaît bien le terrain, avec l'aide de guides locaux, on va pouvoir décider d'amener d'autres gens avec nous, des touristes français, enfin francophones, et qui vont être équipés. Dans beaucoup de cas, on va les équiper avec des casques de protection, des lunettes de protection, parfois des masques à gaz, parce que c'est des environnements qui sont assez toxiques, assez souvent, et puis toujours en gardant une distance de sécurité qui va être évalué par le guide. Donc on essaye de toujours aller jusqu'à la limite, mais de ne jamais dépasser la limite, et parfois c'est pas évident d'arriver à juger de où va se trouver cette fameuse limite. Mais pour l'instant, on a plutôt bien géré, puisque comme je vous le dis, on a ramené tous nos clients à la maison.
Et du coup, lors justement de ces expéditions, est-ce que vous en profitez pour faire des relevés, pour aider les scientifiques, etc.
Alors ça peut arriver, parfois c'est involontaire, c'est-à-dire qu'on va être sur le terrain, observer une éruption, alors que les scientifiques, eux, ne sont pas là, parce que soit ils sont au laboratoire, soit ils sont sur un autre site plus loin. Et à ce compte-là, on va être interrogé par les scientifiques qui vont vouloir connaître, savoir un petit peu ce qu'on a vu, éventuellement récupérer des photos, avoir des explications ou des témoignages de ce qui a été observé. Donc ça, c'est le premier genre de situation, ça arrive assez régulièrement. Et puis la deuxième situation, qui est plus rare pour le coup, c'est carrément d'être partie prenante de mesures sur le terrain. Ça, c'est très rare parce que, évidemment, les volcanologues, bah, ils font ce travail eux-mêmes et ils sont en général assez nombreux pour le faire. Mais dans certains cas, on l'a eu fait plusieurs fois, notamment dans les îles éoliennes en Italie, où on a fait des groupes dans lesquels on avait l'intervention d'un géologue ou d'une géologue qui allait en profiter pour à la fois expliquer le volcanisme et en même temps faire des prises de mesures, je sais pas, des prises de mesures de température de gaz ou de composition de gaz en compagnie des groupes de clients d'Aventure et Volcan. Donc comme ça, ça permet de lier l'agréable à l'utile, à la fois d'être sur le terrain pour les clients, de comprendre comment fonctionne un volcan, et en plus de jouer un peu aux apprentis volcanologues. Mais ça reste assez rare parce que le matériel qui est utilisé en volcanologie est extrêmement coûteux. Il n'est pas facile à manipuler et on peut pas, voilà, on peut pas laisser n'importe qui faire ça. Donc ça reste quand même un domaine qui est quand même à part du tourisme volcanique.
Et est-ce que vous avez beaucoup de clients ?
Alors beaucoup, ça dépend à qui on se compare. On est une toute petite agence. Hein. On est comme on fait vraiment ce qu'on appelle un tourisme de niche, c'est-à-dire qu'on va aller uniquement sur certains pays et sur certains volcans de certains pays. Donc on a vraiment finalement une offre de voyage qui est assez réduite par rapport à des agences de voyage d'aventure qui proposent le monde entier. Donc du coup, ça veut dire que les gens qui viennent chez nous sont des gens qui veulent voir des volcans en activité, donc ils sont assez peu nombreux par rapport à la totalité des Français qui partent en voyage aux quatre coins du monde chaque année. Il y en a quand même assez peu qui ont pour objectif de voir un volcan en éruption. Donc on en a assez peu. Avant le Covid, parce que maintenant la période elle est évidemment un peu particulière, mais avant le Covid, on avait à peu près 1 000 000 de voyageurs par an. Voilà, c'est à peu près le nombre de personnes qu'on faisait voyager, entre 900 et 1000 personnes chaque année sur les différentes destinations. Donc ça reste beaucoup pour nous, à l'échelle du tourisme français, c'est évidemment très très peu.
Et donc, selon vous, comment faire pour que les gens ils s'intéressent plus aux volcans ?
Ah, bonne question. C'est la question qu'on se pose chaque année pour essayer de faire venir de nouveaux voyageurs en quête de découvertes. Bah, le meilleur moyen aujourd'hui, il y a quelques années, je vous aurais dit, c'est de faire des salons, de déplacer dans des librairies, de donner des conférences, etc. Là, évidemment, c'est Internet qui est devenu l'outil de communication principal. Et ce que l'on fait assez régulièrement, c'est qu'on va tourner des reportages, soit avec des chaînes de télévision, soit avec des youtubeurs, sur certains volcans qui sont très spectaculaires. Et puis on va utiliser ce matériel vidéo, le montage du reportage par ces communicants pour ensuite aller le diffuser sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et essayer de faire le maximum de bruit autour de cet événement. Bon, typiquement, il y a 15 jours maintenant, il y a un beau reportage sur YouTube qui est sorti sur le Grand JD qui présente la descente dans un cratère au Nicaragua de toute une équipe de voyageurs directement dans le cratère avec une tyrolienne pour aller au plus près d'un lac de lave en activité. Et ça, c'est vraiment une communication qui nous a permis d'aller toucher des centaines de milliers de personnes qui n'imaginaient même pas que ce genre de choses était possible. Donc c'est par ce biais-là aujourd'hui, donc de l'image spectaculaire, principalement par Internet, qu'on arrive à aller capter l'attention d'autres personnes. Et puis dans d'autres cas, ça peut être des choses beaucoup plus pédagogiques ou scientifiques. Ça peut être des reportages, comme on a déjà eu l'occasion de le faire avec Le Monde de Jamy, que vous connaissez peut-être, qui est une émission qui passe sur France Télévisions. Et on a tourné avec eux plusieurs reportages qui nous ont permis de nous faire connaître auprès d'un public encore plus large.
D'accord. Et du coup, la dernière question qui est, quel est votre volcan préféré ?
À moi en particulier, oui. Alors, comme beaucoup de gens, pas tous, mais comme la plupart des passionnés de volcans, en général, celui qu'on va préférer, c'est le premier qu'on aura vu en activité, parce que c'est celui qui est le plus marquant. Et en général, c'est celui-ci qui donne envie ensuite d'y retourner. Donc moi, c'est l'Etna en Sicile, parce que c'est le premier que j'ai vu il y a maintenant une vingtaine d'années, en éruption. J'étais pas bien vieux à l'époque, j'étais tout juste majeur. Et voilà, ça a été un vrai déclenchement, un vrai coup de foudre. Et puis le gros avantage en plus, c'est qu'il n'est pas très loin de chez nous. Alors c'est tout relatif, mais enfin en 2 heures d'avion à peine, on peut se retrouver au pied de ce volcan. Et donc par conséquent, ça permet quand on a un peu de temps et un peu d'argent et de disponibilité, de pouvoir se déplacer très vite pour aller l'observer quand il est en éruption, ce qui arrive chaque année en plus. Donc ce serait l'Etna.
Il y a peut-être 5 ans maintenant, j'ai réalisé une interview d'André de Maison qui accompagnait les crafts sur les volcans. Oui. Et André m'avait dit à quel point en fait c'était selon lui très important que les gens aillent sur les volcans en activité, qu'ils n'aient pas peur de tenter cette expérience-là, parce que pour lui, ça avait vraiment été quelque chose qui avait changé sa vie et sa vision du monde.
Ouais, clairement. Hein. Oui, je pense que, enfin, alors toutes les âmes n'ont pas cette sensibilité-là. Il y a des tas de gens qui vont voir un volcan, cocher cette expérience dans leur vie et puis passer à la suivante.
Ouais.
Mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement marquant parce que ça ramène l'humain à son échelle qui est quand même pas très grande. Et puis qu'on a en direct souvent ce que l'on nous a expliqué avec plus ou moins de difficultés à l'école, au collège ou au lycée sur les forces qui sont à l'œuvre au sein de la planète Terre et qui sont assez gigantesques. Donc il y a tout ça, et puis il y a vraiment ce que je disais au début de l'interview, cet aspect multisensoriel. Je pense pas qu'il y ait d'autres phénomènes sur Terre comme ça où on ait vraiment toutes les sensations qui soient mises en action sur un temps relativement court finalement. Et puis toujours évidemment cette petite décharge d'adrénaline,
oui.
même si tout le monde rentre vivant heureusement de nos voyages, mais il y a quand même toujours cette petite dose d'adrénaline qui est liée au fait qu'on ne sait jamais vraiment comment les choses vont tourner. C'est ça aussi qui est dingue avec le volcanisme, c'est qu'on a toujours cette incertitude de l'instant à venir, de pas trop savoir comment ça va se passer. Donc je pense que c'est aussi ça que viennent chercher les gens chez nous.
Bah, merci beaucoup pour merci vos réponses.
Mais je vous en prie.
Merci Mathieu Morelière qui s'est montré aussi disponible que sympathique pour Lana et Maëva, que je félicite au passage et que je remercie pour cette interview hors du commun. Je vous invite à écouter Lana, Maëva et tous les autres dans l'émission du Club Radio qui s'appelle Retrou On Air. Vous la retrouverez facilement sur notre site. Et vous trouverez sur la page de Toucher Terre un lien vers plus d'informations sur aventures et volcans. Et bien voilà, notre voyage s'achève sur cette terre sortie de terre, cette matière renouvelée, naissante ou renaissante, qui invite à l'humilité. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la réécouter sur notre site internet ainsi que toutes les précédentes, radiograndciel.fr. À bientôt.
Thank you.